إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نواصل بعون الله تبارك وتعالى دروسنا في شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، على شرح الشيخ سليمان بن عبد الله القصيري حفظه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه، ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه. كالبعير، قال الشيخ حفظه الله، كالبعير إذا هرب فعجز عنه، فإذا رماه بمحدد في جنبه مثلا وأنهر الدم ومات من الرمية فإنه يحل، لحديث رافع بن خديج قال: أصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا. أخرجه البخاري ومسلم، معنى ند منها بعير أو أي هرب، ند منها بعير أي هرب، ومعنى حبسه أي أصابه وقتله. Donc on poursuit بعون الله تبارك وتعالى l'explication de منهج السالكين de l'imam السعدي رحمه الله تعالى. Donc il dit ici l'auteur رحمه الله, toujours dans le chapitre concernant l'abattage rituel, taïeb, ainsi que la chasse. Naam. Taïeb. Donc il poursuit ici l'auteur rahimahullah ta'ala en disant: wa mithlu as-saydi. Donc on parle ici de l'animal, taïeb, que l'on ne peut donc maîtriser, attraper afin de l'égorger correctement. Taïeb. Donc il dit as-sayd ici, cet animal qui s'enfuit et donc qu'on ne peut pas donc maîtriser afin de l'égorger correctement. Il dit le Cheikh Sulayman hafidhahullah ta'ala, tel que le chameau, al-ba'ir, lorsque il s'enfuit. Le chameau, quand il s'enfuit, donc on n'arrive pas donc à le rattraper, le maîtriser afin de l'égorger et de l'abattre d'une manière correcte. Donc il dit le Cheikh, donc lorsque la personne tire sur l'animal une chose qui est tranchante et qui va atteindre le côté ou le flanc de la bête par exemple, et va entraîner l'effusion de sang, Et la mort de la bête, donc due à la cause de ce lancer de cette arme blanche ou tranchante, eh bien la bête sera licite dans ce cas-là. Et cela en vertu du hadith de Rafi' ibn Khadij qui a dit: nous avons obtenu en butin, yani, des chameaux et des bêtes de troupeaux, des moutons, des chèvres, etc. Puis il dit fanadda minha ba'ir, c'est-à-dire un chameau s'enfuit. Un homme a alors lancé ou tiré une flèche sur ce chameau qui s'était enfui et l'a atteint et la tua. Il dit le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, ces chameaux, yani, laha awabid, autrement dit, elles ont une tendance à s'enfuir, que l'on retrouve également chez les animaux sauvages. Tayeb. Donc lorsque l'un de ces chameaux s'enfuit, eh bien faites comme cela a été fait dans le hadith.
Du coup, la bête, elle est licite ou pas?
Non, donc on a dit, lorsque la bête s'enfuit, et que tu ne peux pas la rattraper, la maîtriser pour l'égorger correctement, et que tu lances du coup une arme, ou que tu tires par exemple une flèche, d'accord, une flèche qui va toucher son flanc et qui va faire couler le sang jusqu'à ce qu'elle meure, la bête elle est licite. C'est bon? Alhamdulillah. Donc le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, donc il est authentique. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن وظفر أما السن فعظم وأما الظفر فمود الحبشة متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. Puis dit l'auteur, et donc selon رافع بن خديج qui a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a dit: ce qui fait couler le sang et ce sur quoi le nom d'Allah tabarak wa ta'ala a été mentionné, mange. Laysa sin wa dhufur, à condition que ce qui a fait couler le sang ne soit pas une dent et ou un ongle. Donc la dent, c'est-à-dire parce que c'est un os. Donc à condition que ce ne soit pas une dent, une dent ou bien sûr les os, etc. Et quand Ad-Dhufur, l'ongle, il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car c'est le couteau des Habasha. C'est le couteau qu'utilise Al-Habasha. Voyez? Naam. Donc le hadith rapporté également par Al-Bukhari et Muslim. ثم قال المؤلف رحمه الله ويباح صيد الكلب المعلم بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لا يأكل. طيب. ويباح صيد الكلب المعلم بأن يسترسل إذا أرسل. فهناك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط الكلب المعلم وهي ثلاث شروط. هي ثلاثة شروط. الأول أن يسترسل إذا أرسل، بمعنى أنه لا يذهب للصيد بنفسه بل بإرسال صاحبه، كأن يسميه باسم أو بالإشارة أو بالصوت ونحوها، فلا يذهب إلا إذا أذن له صاحبه، ولو ذهب من نفسه ولو ذهب بالنفس لم تحل لأنه لم يقصد الصيد. Il poursuit l'auteur ici, rahimahullah ta'ala, en disant « Le gibier du chien de chasse, donc qui a été instruit à la chasse, enseigné à la chasse, son gibier, il est licite. » Donc on va, l'auteur ici, rahimahullah ta'ala, il évoque les conditions justement pour que le chien soit ou fasse partie de ces chiens qui sont instruits, enseignés à la chasse et dont le gibier est permis, est licite. Donc pour que le chien fasse partie de cette catégorie-là de chiens, il y a trois conditions. La première, que le chien parte à la chasse du gibier après que son maître lui ait ordonné de partir. C'est-à-dire, il ne part pas sans l'autorisation de son maître. Il ne part pas de lui-même, mais seulement après que son maître lui ait autorisé ou ordonné à partir à la chasse. Comme le fait que son maître prononce son nom, ou fasse un signe de la main, ou fasse un bruit particulier, afin que le chien comprenne qu'il a le droit de partir chasser ou courir après le gibier. Voyez ? Donc ça veut dire que si ce chien part de lui-même, et non après une indication, un ordre de son maître, son gibier n'est pas licite. D'accord ? Parce que son intention, yani, ici, n'est pas de chasser pour son maître. D'accord ? N'est pas al-Sayd. Jayid ? Ana. ثم قال وينزجر إذا زجر هذا هو الشرط الثاني من شروط الكلب المعلم وهو أن ينزجر عند الزجر بأن يطالبه صاحبه بالإسراع في المشي فيسرع أو بالتخفيف فيخفف أو يخفف أو الوقوف فيقف ونحو ذلك. La deuxième condition pour que ce chien fasse partie des chiens de chasse, eh bien qu'il écoute et obéisse à son maître lorsque son maître, par exemple, lui demande d'accélérer dans la marche ou dans la course. Il accélère. Lorsque son maître lui demande, lui ordonne de ralentir, le chien ralentit. Lorsque son maître lui ordonne de s'arrêter, le chien s'arrête. Et autre que cela. Ça, c'est la deuxième condition pour que le chien fasse partie des chiens de chasse, dont le gibier est licite. C'est bon ? ثم قال وإذا أمسك لا يأكل هذا الشرط الثالث من شروط الكلب المعلم وهو أن لا يأكل من الصيد شيئا وإنما يمسكه بفمه أو بأسنانه ويأتي به صاحبه لأنه لو أكل منه يكون قد أمسكه لنفسه ولم يمسكه لصاحبه والله تعالى يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم وسيأتي الدليل إن شاء الله في حديث عدي ابن حاتم. طيب. Troisième condition pour que le chien fasse partie des chiens de chasse dont le gibier est licite est que le chien ne mange rien du gibier, ne mange rien du gibier, mais il ne fait que l'attraper avec sa gueule ou ses crocs et qu'il l'amène à son maître. Autrement dit, si jamais le chien en mange, eh bien il l'aura attrapé pour lui, pas pour son maître. D'accord ? Et Allah tabarak wa ta'ala ordonne que le chien de chasse donc l'attrape pour son maître, comme il l'a dit dans la sourate Al-Ma'ida, le verset numéro 4, dans le sens نعم Mangez donc de ce qu'il capture pour vous. D'accord ? Fakulu mimma amsakna alaykum. Mangez donc de ce qu'il capture pour vous. Donc s'ils ont capturé quelque chose pour eux et non pas pour leur maître, le gibier n'est pas licite. Et on va voir le hadith, le dalil, dans le hadith de Adi ibn Hatim, inshallah. Taïe. C'est bon ? Jayid. ويسمي صاحبها عليها إذا أرسلها إذا أرسلها وعن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكل وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل فلا تدري أيهما قتله وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل متفق عليه نعم فهذا الحديث أخرج نعم. قبل ذلك يقول الشيخ سليمان حفظه الله الجوارح التي يباح صيدها نوعان الأول ما يصيد بنابه كالكلب والفهد ونحوهما ويحل صيده إذا كان معلما وعلامة تعليمه اتصافه بثلاثة أمور وهي أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لا يأكل والثاني ذو المخلب كالصقر والباز والعقاب ونحوها ويحصل تعليمه بأمرين أن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي ولا يعتبر في الطير ترك الأكل لإجماع الصحابة على ذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا أكل الكلب فلا تأكل وإن أكل الصقر فكل أخرجه البيحقي معلقا قال تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه يجي الشيخ سليمان حفظه الله تعالى الجوارح الجوارح سي لي بريداتور لي انيمو بريداتور dont les gibiers sont licites, sont de deux catégories. La première, ceux, les prédateurs, qui chassent avec leurs crocs, tels que les chiens, les guépards et autres. Leur gibier est permis si ces bêtes font partie des bêtes qui ont été éduquées, enseignées à la chasse. Et on a vu donc les trois conditions pour que ces bêtes fassent partie de cette catégorie-là de bêtes et de chasse. On a dit, il ne part pas sans l'ordre de son maître, il obéit à son maître lorsqu'il lui ordonne notamment d'accélérer, de ralentir ou de s'arrêter, et lorsqu'il attrape la proie, il ne la mange pas, il la ramène à son maître. Vous voyez ? Donc on a dit, la première catégorie, les prédateurs, ceux qui chassent avec leurs crocs. La seconde, ceux qui chassent avec leurs serres. Avec leurs serres. D'accord ? Leurs ongles, leurs griffes plutôt. Tels que les aigles, les faucons, les falcons et autres. Et ces bêtes-là, feront partie également, donc, des oiseaux de chasse s'il y a donc la condition qu'elles partent sur ordre de leur maître et qu'elles reviennent sur ordre de leur maître d'accord et contrairement à la première catégorie et les chiens les guépards et autres, eh bien, ce n'est pas une condition qu'elles ne mangent pas du gibier pour faire partie des animaux de chasse. Et cela à l'unanimité des Sahaba radiallahu anhum.
C'est quoi la différence? T'as dit différence?
On dit les aigles, etc., pour qu'ils fassent partie des animaux de chasse dont le gibier est licite, il faut qu'elles ne partent qu'après l'ordre de leur maître, ouais, et qu'elles reviennent aussi si les maîtres les rappellent. Ouais. D'accord? Par contre, si elles mangent du gibier, ça ne rend pas la viande illicite, même si elles en mangent. D'accord?
Si les aigles mangent...
Non. Qu'elles en mangent et avant qu'elles ramènent la proie à son maître. Et cela à l'unanimité des compagnons. Il dit, Ibn Abbas, lorsque le chien mange, c'est-à-dire a mangé de la bête, du gibier, fais-la-ta-koul, ne mange pas. Ça veut dire que la viande ne sera pas licite. Mais il dit, mais si l'aigle ou le faucon a mangé, fa-koul, mange, tu peux manger. C'est bon? Hadith rapporté par Al-Bayhaqi. طيب. يجي الله تبارك وتعالى دونك على سورة المائدة وبعليخ لفرسي دو لسورة المائدة طيب ainsi que le gibier que capturent les animaux que vous avez dressés pour la chasse en leur apprenant ce qu'Allah vous a appris, mangez donc de ce qu'ils capturent pour vous et prononcez le nom d'Allah lorsque vous envoyez l'animal. Est-ce que c'est bon? Wade? Taïe. Donc il dit ici, l'auteur, rahimahullah, wa yusammi sahibuha. Donc le maître de l'animal de chasse, dressé pour la chasse, il prononce le nom d'Allah, tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il envoie sa bête, lorsqu'il fait partir son chien ou son faucon, pour qu'il parte à la chasse du gibier, il prononce le nom d'Allah, il dit Bismillah. C'est bon? Selon Adi ibn Hatim, qui a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsque tu envoies ton chien de chasse, prononce le nom d'Allah, tabarak wa ta'ala. D'accord? Si ton chien a attrapé la proie et que tu as trouvé donc la proie encore vivante, eh bien, égorge-la. Donc, si le chien qui ramène la proie et le maître, il voit que la proie, elle est encore vivante. Il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, égorge-la. D'accord? Sacrifie-la. Yani, comme nous l'avons appris. Mais si tu atteins ta proie, et que tu constates que le chien l'a déjà tué, et n'en a pas mangé, on dit la condition que le chien n'en a pas mangé, mais que tu trouves la proie qui a été tuée quand même, eh bien, fakulhu, mange. Mange. D'accord? Puis il dit, et si tu trouves avec ton chien un autre chien, tu trouves quand tu arrives sur les lieux, tu constates qu'il y a ton chien, certes, mais il y a d'autres chiens. D'accord? Il y a d'autres chiens, tu constates que la bête, que la proie a été tuée. Il dit le prophète, fala ta'koul, ne mange pas. Car tu ne sais pas quel chien l'a tué. Est-ce que c'est ton chien ou est-ce que c'est l'autre chien ou les autres chiens? Donc ne mange pas.
Et si ils l'ont tué en même temps?
Ne mange pas. Parce que tu ne sais pas. Dans tous les cas, là, tu ne sais pas qui l'a tué en premier. Dans tous les cas, ils l'ont touché. Ils ont touché la bête. D'accord? Ne mange pas. Donc si tu trouves plusieurs chiens sur les lieux, ne mange pas car tu ne sais pas qui l'a tué. C'est bon? Puis il dit, وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ. Et si tu lances ta flèche, mentionne le nom d'Allah tabarak wa ta'ala. Hein? Lorsque tu lances ta flèche, dis Bismillah. Puis il dit, فَإِنْ رَابَ عَنْكَ. Si le gibier, donc il se peut que tu lances ta flèche sur une bête, et qu'après tu ne retrouves pas la bête. D'accord? C'est même que tu l'aies atteinte la bête, et que la bête s'est enfuie avec la flèche dans son corps, et qu'après tu ne retrouves pas la bête. Pendant un jour par exemple. Il dit le prophète, Yaouman, pendant un jour. Taïe? Et d'un coup tu la retrouves. Il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si sur la bête il n'y a que la blessure infligée par ta flèche, mange si tu le veux. Si tu retrouves la bête un jour après et que tu vois sur elle la blessure infligée par ta flèche, il dit mange si tu le veux. D'accord? Mais si tu trouves ta bête noyée dans l'eau, hein, à l'intérieur de l'eau, dans un lac ou une rivière ou autre, fallait attaquer ou ne mange pas. D'accord? Ne mange pas. Car il se peut que elle est morte à cause de la noyade et non de la flèche. C'est bon? Donc le hadith rapporté par Al-Bukhari, Muslim. Non. جيد فهذا الحديث متفق عليه يتضمن الأحكام الآتية الحكم الأول اشتراط أن يكون الكلب معلما لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم الحديث donc on tire de ce hadith d'Adi ibn Hatim plusieurs règles on va les résumer inshallah la première règle la condition qui est que le chien doit être un chien dressé pour la chasse. Un chien de chasse. Qui est dressé. Et cela par rapport à la parole du prophète. Alayhi salatu wassalam. Qui a dit, lorsque tu envoies ton chien, al-mu'allam. Donc al-mu'allam, c'est le chien qui était dressé, instruit à la chasse. D'accord? Est-ce que c'est clair? Hukm al-thani. اشتراط أن يسمي الله عند إمساك الكلب للصيد إن رآه أو عند إرساله إن لم يرى. Deuxième règle, la condition qui est que la personne doit prononcer le nom d'Allah si il voit son chien attraper la proie. D'accord? Lorsqu'il voit son chien mordre la proie, l'attraper avec ses crocs, il dit Bismillah. Mais s'il ne le voit pas, il dit Bismillah lorsqu'il envoie son chien. D'accord? Il dit Bismillah lorsque il envoie au moment où il dit à son chien de partir à la chasse. C'est bon? Voilà. الثالث يشترط الذبح للصيد إذا أدرك حيا لأنه مقدور عليه والمقدور عليه لا بد من ذبحه بالسكين. Troisième règle, il est une condition de dégorger la proie, si tu la trouves vivante. Si tu arrives et que tu vois la proie, elle est encore vivante, tu dois l'égorger. Car tu es capable de le faire. Donc elle est par terre, elle est blessée, elle est vivante. Tu l'égorges. D'accord? Donc la bête que tu es capable d'égorger, eh bien tu dois l'égorger avec un couteau. Une arme blanche. C'est bon? Tranchante. الرابع أن صيد الكلب معلم حلال إذا قتله ولم يأكل منه لقوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكل Quatrième règle, le gibier du chien dressé à la chasse, il est licite s'il a tué et n'en a pas mangé. Et cela, encore une fois, par rapport à la parole d'Allah, tabarak wa ta'ala, mangez donc de ce qu'il capture pour vous. Mangez donc de ce qu'il capture pour vous. Et également le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Et si tu parviens à l'endroit où il y a le gibier et que le chien l'a tué et n'en a pas mangé, eh bien mange-le. » C'est bon? Le khamis, أنه لا يؤكل من الصيد عند اشتراك كلب آخر مع الكلب المعلم، لأنه لا يدري من الذي قتل، ولذا قال فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتل. Cinquième règle, on ne mange pas du gibier lorsque plusieurs chiens ou un autre chien a été associé au moment de où le chien dressé à la chasse l'a attrapé. D'accord? Car tu ne sais pas qui l'a tué. C'est la raison pour laquelle yani, il dit n'en mange pas car tu ne sais pas qui l'a tué. السادس اشتراط التسمية عند إرسال السهم لقوله وإذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه. Sixième règle, la condition de prononcer le nom d'Allah tabarak wa ta'ala lors de l'envoi de la flèche, lors du tir. Lorsque tu tires la flèche, hein, c'est là par rapport à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu envoies ta flèche, prononce le nom d'Allah tabarak wa ta'ala sur cela. السابع إذا غاب الصيد ثم وجد وليس في إلا أثر سهم الرامي فيأكل لأنه قصد صيده قصد صيده ولم يشاركه أحد وسمي عليه. Septième règle, lorsque tu ne sais pas où est le gibier, puis tu la trouves et tu ne vois sur lui que les blessures, que la trace infligée par ta flèche, eh bien, le chasseur peut en manger. Le chasseur peut en manger. D'accord? Na'am. Et personne n'a été associé à lui dans la chasse de cette bête. Voyez? Et parce qu'également, il a prononcé le nom d'Allah tabarak wa ta'ala lorsqu'il a lancé la flèche. C'est bon? الثامن أن الصيد إذا وجد غريقا في الماء لا يؤكل لأنه لا يدري هل موته من السهم أو موته من الماء الذي غرق فيه. Huitième règle, on a dit lorsque le gibier est retrouvé noyé dans l'eau, eh bien il n'est pas consommable car il ne sait pas si sa mort est due à sa flèche ou sa mort est plutôt due à une noyade dans l'eau. Donc il ne peut pas en manger. Est-ce que c'est clair?
Très.
ثم قال في الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم من حديث شداد بن أوس والحديث يوجب الإحسان إلى الذبيحة والرفق بها ويأمر باتخاذ آلة حادة لتكون أسرع في الإجهاز عليها. Il dit ici, il finit le chapitre en disant le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Allah jalla wa ala a prescrit la bienfaisance dans toute chose. Donc lorsque vous exécutez, faites preuve de bienfaisance dans l'exécution. D'accord? Et lorsque vous sacrifiez, faites preuve de bienfaisance dans votre sacrifice. Et que chacun d'entre vous aiguise son couteau. Et également, soulage la bête qui est sacrifiée. Hein, bien sûr, en faisant tout pour qu'elle ne souffre pas. C'est bon? Donc le hadith rapporté par l'imam muslim selon Shaddad ibn Aws. Le hadith donc ici, il impose, oblige la bienfaisance envers la bête qui a été sacrifiée et la douceur envers elle. Et il donne l'ordre également de choisir les meilleurs outils pour trancher la gorge de la bête, un outil qui doit être tranchant afin que le sacrifice soit le plus rapide possible pour que la bête meure le plus rapidement possible et ne souffre pas. D'ailleurs, justement, la semaine dernière, on m'avait posé la question par rapport à est-ce qu'on a le droit de sacrifier avec une scie. Hein? Donc, vous voyez la scie à nez qui est certes coupe, mais qui a des dents, hein? Qui est dentelée. Vous voyez, il est interdit de sacrifier la bête avec une scie, car cela la fait souffrir. Et faire souffrir la bête, c'est interdit. Mais si la personne yani, tue la bête comme cela, la viande sera licite, mais il aura commis un péché par rapport au fait d'avoir fait souffrir la bête. C'est bon? Paye. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه رواه أحمد وأيضا أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث أبي سعيد الخدري وقال الترمذي حسن صحيح ومعنى الحديث أنه إذا ذبحت شاة أو غيرها مما يؤكل ووجد في بطنها جنين فإنها يباح ولو وجد ميتا فيكتفى بزكاة أمه واستحب الإمام أحمد ذبحه ليخرج الدم الذي في جوفه وذكر ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما فإذا خرج حيا حياة أو حياة مستقرة لم يحل إلا بتذكيته لأنه يشبه ما لو ولد قبل ذبح أمه. Puis il finit le chapitre en disant que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit l'abattage ou l'égorgement du bébé qui est dans le ventre de la bête, eh bien, se fait à travers l'égorgement de sa mère. Se fait à travers l'égorgement de sa mère. Donc le hadith rapporté par l'imam Ahmed et également Abu Dawud, Tirmidhi, Numaja, selon Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, il a dit Tirmidhi, c'est un hadith qui est bon, authentique. Le sens de ce hadith est que lorsque yani, une chèvre ou une brebis a été sacrifiée ou autre que cela parmi les bêtes consommables et que l'on trouve dans son ventre un bébé, un fœtus, d'accord? Eh bien, ce fœtus sera licite à la consommation, même si on le trouve mort, d'accord? Car le fait de sacrifier sa mère est suffisant pour que son bébé soit aussi licite à la consommation. Et l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, a dit qu'il était recommandé de l'égorger quand même, afin de faire sortir le sang qu'il y a à l'intérieur. Taïeb. Et cela a été mentionné sur l'imam Omar radiallahu anhuma. Donc lorsque le bébé sort du ventre de sa mère qui a été égorgée, mais vivant, si le bébé il est vivant d'une vie qui est stable, d'accord? Il n'est pas en train de mourir, il est vivant. Eh bien, il dit, Ibn Omar, qu'il n'est pas licite à la consommation, sauf si on l'égorge. Donc il sera obligatoire de l'égorger à ce moment-là, car sinon, il ne sera pas halal. Est-ce que c'est bon? Pourquoi? Parce que, eh bien, il est similaire au bébé qui est sorti du ventre de sa mère avant que sa mère ne soit égorgée. Donc, lorsque un bébé, un veau, sort du ventre de sa mère vivant, tu n'as pas le droit de le sacrifier ou de le manger plutôt, sans l'égorger et sans l'abattre rituellement. De la même façon, lorsqu'un bébé sort du ventre de sa mère, même si sa mère elle a été égorgée avant, d'accord? Et qu'on retrouve un bébé mais qui est vivant, d'une vie qui est stable, eh bien tu n'as pas le droit de le consommer, sauf si bien sûr tu l'égorges à son tour. C'est bon? Alhamdulillah. Ainsi se termine le chapitre sur l'abattage rituel et la chasse. On continuera donc le chapitre d'après. On le commencera plutôt lundi prochain, si Allah tabaraka wa ta'ala nous le permet. Barakallahu fikum. Wa l'ilmu inda Allah. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum.